Le journal, Frédéric Beniada.
Bonsoir. Va-t-on vers une escalade à Hong Kong ? La police a fait usage de gaz poivre aujourd'hui pour repousser les manifestants à l'extérieur de l'aéroport. Le trafic aérien une nouvelle fois paralysé. Ce soir, le calme semble revenu, mais la Chine hausse le ton et laisse planer la menace d'une intervention. Nous ferons le point dans quelques instants sur la situation sur place. En Malaisie, le corps retrouvé ce matin est bien celui de Nora, l'adolescente franco-irlandaise disparue de sa chambre il y a 10 jours. Son corps dénudé découvert dans un ravin, en pleine jungle. 38 enfants surexposés à l'arsenic dans l'Aude. Ils vivent à proximité d'une mine fermée il y a 15 ans. Les familles expriment leur inquiétude. Nous les entendrons dans ce journal. Jour J pour les trois prétendants à la succession de Laurent Wauquiez à la présidence des Républicains. Ils ont jusqu'à ce soir 20h pour déposer leur parrainage. L'espoir d'un traitement contre le virus Ebola. Et puis au téléphone sonne ce soir, Éric Delvaux, l'héritage de Napoléon.
Oui, Napoléon dont on célèbre cette semaine les 250 ans. Sa fascination pour l'Empire, sa politique belliqueuse et sa modernité aussi. Alors que reste-t-il d'ailleurs de l'esprit césariste de Napoléon et qui se revendique encore de la droite bonapartiste? Eh bien, vos remarques, vos questions sur Napoléon, 01 45 24 7000.
Un chapeau, la météo pour demain, ça se dégrade une nouvelle fois par l'ouest, nous dira Élodie Calac à la fin de cette édition. Une deuxième journée de chaos à l'aéroport de Hong Kong avec l'annulation encore aujourd'hui de centaines de vols. Les manifestants pro-démocratie ont de nouveau investi les halls d'arrivée et de départ pour dénoncer la mainmise de Pékin sur l'ancienne colonie britannique. La situation s'est quelque peu tendue lorsque la police anti-émeute a fait usage de gaz poivre pour disperser les manifestants. Et même si elle n'a pas chargé, on peut ce soir parler de véritable confusion. À Hong Kong, les précisions d'Angélique Forget.
Des forces de l'ordre ont dû intervenir pour exfiltrer au moins un homme soupçonné par les manifestants qui occupaient l'aéroport d'être un policier en civil. Il se trouvait au milieu de la foule. Les manifestants l'ont encerclé, lui demandant de décliner son identité. Selon certains témoins, il se serait trouvé en difficulté. Des secouristes sont venus le chercher à l'intérieur de l'aéroport, puis il est reparti en ambulance. Mais les manifestants ont tenté de bloquer les policiers qui l'accompagnaient. Autour des fourgons, ils ont hurlé « police triade ». Les triades, ce sont ces mafias hongkongaises qui ont attaqué fin juillet dans une station de métro des manifestants sans que la police n'intervienne. Cela a beaucoup marqué les esprits ici. En réponse aux jets de bouteilles d'eau sur les voitures de police, les forces de l'ordre ont lancé du gaz au poivre et à l'intérieur de l'aéroport, beaucoup de manifestants sont repartis, sentant la situation se tendre à l'extérieur. Les policiers ont procédé à quelques arrestations. Puis au bout de quelques minutes, on finit par reprendre le contrôle de la situation.
Et pendant ce temps-là, la Chine accentue la menace d'une intervention. Elle a montré des vidéos des forces de l'ordre se massant à la frontière de la région semi-autonome. Pour François Godemant, historien, spécialiste de la Chine et des relations internationales en Asie de l'Est, il est évident que le régime communiste ne peut laisser les choses déraper sans intervenir. Pékin serait prêt à perdre la face plus tôt que de voir affaiblir son autorité.
Vous savez, je crois qu'elle va de toute façon la perdre parce que rétablir l'ordre, entre guillemets, et réduire des manifestants largement pacifiques par des moyens violents, qu'ils soient policiers ou militaires, peut-être faire appel à de la police armée chinoise, c'est déjà avoué une forme de défaite. Donc, ce que je crois plutôt, c'est que la Chine passera sur cette perte de face parce que rétablir l'ordre et réduire au silence la protestation de Hong Kong, c'est plus important.
C'est la priorité chinoise, faire que Hong Kong rentre dans le rang.
Je pense que c'est devenu de plus en plus explicitement la priorité chinoise. Et d'ailleurs, Mme Carrie Lam, la chef de l'exécutif de Hong Kong, qu'on a beaucoup brocardé, mais qui malgré tout, si vous voulez, est complètement prise entre deux feux, elle a quand même fondu en larmes hier en expliquant que Hong Kong était au bord de l'abîme. Rien n'est écrit. Mais d'une manière ou d'une autre, réduire ces manifestations par la force me semble acquis d'un point de vue chinois.
François Godemant avec Nathanaël Charbonnier. Signe de détente entre les États-Unis et la Chine. L'administration américaine reporte à la mi-décembre l'instauration des droits de douane supplémentaires que Donald Trump souhaitait imposer à certains produits chinois. Ces tarifs devaient s'appliquer à partir du 1er septembre prochain, essentiellement sur de l'électronique. Trump repousse ces menaces, signe que les négociations se poursuivent entre Pékin et Washington. Grégory Phillips.
Il l'a théorisé au milieu des années 80 dans son essai The Art of the Deal, alors que Donald Trump n'était encore qu'un promoteur immobilier new-yorkais. Dans les affaires, et donc aujourd'hui dans les relations commerciales avec un pays étranger, il faut menacer de frapper fort, puis négocier jusqu'à obtenir gain de cause. Washington renonce donc pour l'instant à imposer cette taxe de 10% supplémentaire sur de nombreux produits fabriqués en Chine, téléphones portables, consoles de jeux vidéo, ordinateurs, jouets, chaussures et vêtements. La menace est reportée au 15 décembre. Et donc les négociateurs continuent à discuter, un prochain rendez-vous est fixé dans 2 semaines. Cette guerre commerciale entre les deux puissances économiques dure depuis plus d'un an. Il y a quelques jours encore, Washington accusait Pékin de manipuler sa monnaie pour favoriser ses exportations. Aujourd'hui, la tension baisse d'un cran. La nouvelle provoque une embellie à la bourse, à New York. À la mi-journée, le prix des actions Apple ou du fabricant de jouets Mattel s'envolait et le Dow Jones gagnait 400 points. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et conséquences immédiates de cette décision, ce soir les cours du pétrole, nous l'évoquions à la mi-journée, sont repartis à la hausse. Le corps retrouvé ce matin en Malaisie est bien celui de Nora. Cette franco-irlandaise de 15 ans, en vacances avec sa famille au sud de Kuala Lumpur, était portée disparue depuis une dizaine de jours. Plus de 300 secouristes épaulés par des hélicoptères ont été mobilisés pour retrouver la jeune fille dans la forêt tropicale, retrouvée dans un ravin dénudé. Une autopsie doit être pratiquée dans les prochaines heures pour déterminer les circonstances de la mort. C'est une avancée importante dans la lutte contre le virus Ebola. Deux nouveaux traitements sont désormais jugés efficaces par l'Organisation mondiale de la santé après la rémission de 2 malades à Goma. 2 molécules récemment mises en avant par une étude américaine. L'épidémie de fièvre hémorragique a fait plus de 2000 morts cette année en République démocratique du Congo. Il s'agit donc d'un espoir dans la lutte contre cette maladie pour laquelle aucun traitement n'existait jusqu'à la dernière épidémie en 2015. À Genève, les précisions de Jérémy Lange.
REGN, EB3 et MAB114. Derrière ces sigles se cachent les remèdes les plus efficaces à ce jour contre Ebola. Ils ont été administrés à plus de 700 malades en RDC. Bilan, un taux de mortalité qui tombe aux alentours des 30%, alors que plus de la moitié des personnes infectées meurent du virus quand elles ne sont pas soignées. Quand ils sont pris à temps, les résultats de ces médicaments sont encore plus spectaculaires, comme l'explique Christian Lindmeier, c'est le porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé.
Tous les traitements sont efficaces quand on reçoit un traitement tôt, dans les premiers 3 jours des symptômes. On a une chance à survivre de 90%, et c'est énorme. Avec une vaccination qui est très efficace, environ plus que 90% d'efficacité, et des traitements qui sont, si on les donne tôt, très efficaces, on a 2 moyens très 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 efficaces dans la lutte contre l'Ebola.
L'annonce est la première vraie bonne nouvelle depuis des mois sur le front anti-Ebola. En un peu plus d'un an, le virus a déjà fait plus de 1800 morts en RDC. Mais l'OMS met en garde, la prévention et la sensibilisation de la population restent indispensables si on veut contrôler la propagation du virus. Un objectif qui semble désormais réaliste. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Le journal de 19h sur France Inter.
Le choc et les questions à Goncoutainville dans la Manche. Le choc après la mort de 3 enfants de 7 et 11 ans lors du chavirage de leur bateau de plaisance. Les 3 enfants coincés dans la coque n'ont pu être secourus. Seuls les parents ont pu s'en sortir sains et saufs. Et les questions, la mer était agitée. La Société nationale de sauvetage en mer avait lancé un avertissement aux plaisanciers. L'inquiétude dans l'Aude à présent où 38 enfants en bas âge présentent des taux d'arsenic bien supérieurs à la moyenne. Ces enfants vivent dans la vallée de l'Orbiel qui abritait jusqu'en 2004 l'une des plus importante mine d'or d'Europe et la première mine d'arsenic du monde. Elle a laissé dans son sillage des millions de tonnes de déchets toxiques stockés sur plusieurs sites alentours, dont certains auraient perdu leur étanchéité. Emeline Faury.
Louane n'a que 6 mois, mais elle présente déjà un taux d'arsenic 2 fois supérieur à la normale. Elle n'a pas de symptômes, mais forcément sa maman Marlène est très inquiète.
Elle est en parfait état, donc c'est un problème qui dort en fait. Son petit organisme est ultra chargé en arsenic et puis tout ça dort et ça explosera quand ça explosera.
L'Agence régionale de santé reconnaît les risques de cancer si l'exposition dure pendant des années, mais pour le docteur Jean-Jacques Morfoisse, directeur général adjoint de l'ARS en Occitanie, il ne faut pas paniquer à la vue de ces résultats.
Ce qui est important de rappeler, c'est que ces résultats qui sont au-dessus de la norme habituellement admise en population générale ne sont pas le témoignage d'une intoxication aiguë à l'arsenic, mais simplement le témoignage du fait que ces personnes ont été en contact dans les 10 derniers jours avec de l'arsenic.
L'ARS renouvelle les recommandations sanitaires délivrées depuis des années pour éviter la contamination à l'arsenic. Il faudra recontrôler les enfants dans 2 mois. Une prise en charge insuffisante pour les parents qui ne se sentent pas écoutés, confie Marlène.
Nous, on est très en colère, on n'est pas écoutés, on a l'impression que ces problèmes-là, ils sont complètement minimisés en fait.
Les familles prévoient un rassemblement vendredi devant l'hôpital de Carcassonne pour interpeller les autorités.
Emeline Ferry, un fauteuil pour trois. Ils seront trois candidats. Christian Jacob, Julien Bert et Guillaume Larrivé à briguer la présidence du Parti Les Républicains en crise profonde depuis la débâcle des européennes. Trois candidats au parcours et personnalités différentes pour succéder à Laurent Wauquiez à la tête du parti de droite, Maxence.
Oui, n'allez pas trop chercher les différences sur le fond. Le projet politique, il porte quasiment le même, assez proche de celui de Laurent Wauquiez, axé sur les régaliens, ferme sur l'immigration, conservateur d'un point de vue sociétal. Tous les trois s'opposent par exemple à la PMA pour toutes. Il n'y a que sur le terrain économique qu'ils divergent un peu. Julien Aubert est un souverainiste, opposé à la privatisation d'aéroports de Paris, quand Guillaume Larrivé, lui, se dit franchement libéral, et Christian Jacob aussi. Pour trouver de vraies distinctions, il faut en effet se pencher sur les parcours, les profils. Vous avez le vieux briscard, Christian Jacob, ministre sous Jacques Chirac, patron du groupe LR à l'Assemblée depuis 2010, qui part logiquement favori puisqu'il n'inquiète personne et arrondit toujours les angles. Ensuite, vous avez les deux Quadra et Narc en quête de notoriété. L'un du type charmeur méditerranéen, Julien Aubert. L'autre plutôt BCBG rigoureux, Guillaume Larrivé. Et voici sa principale proposition pour les Républicains.
J'organiserai dès le mois de janvier un référendum militant pour adopter de nouveaux statuts. Je veux que on en finisse avec ce système de primaire ouverte qui avait causé tant de divisions et tant d'échecs par le passé. Je veux que ce soit les militants eux-mêmes qui choisissent notre candidat.
Et ces deux adversaires sont aussi contre une primaire ouverte en 2022. Heureusement, il ne devrait pas y avoir de débat télé entre eux. Ce serait un peu trop calme et à droite, on n'a plus l'habitude.
Merci Maxence. Et la date du scrutin interne aura lieu les 12 et 13 octobre prochain. Le nombre de morts sur les routes de France stable au mois de juillet. Des chiffres de la sécurité routière à comparer avec ceux de l'an dernier à la même époque. 328 personnes ont tout de même trouvé la mort dans des accidents de la circulation. Des trains pas comme les autres, certains TER et Transiliens, à nouveau dans le collimateur des cheminots. Ce sont les nouvelles rames Régio 2N fabriquées par Bombardier et qui équipent déjà une dizaine de régions. Ces trains connaissent une série de défaillances techniques pour le plus grand malheur des agents de conduite et surtout des clients de la SNCF. Faustine Calmel.
Silencieux et climatisé, quand Étienne a vu les Régio 2N rouler sur la ligne R du Transilien qu'il prend pour aller travailler à Paris, il s'est plutôt réjoui. Mais cet été, ce membre d'un collectif de défense des usagers a déchanté.
Lors des canicules, donc, les pantographes ont arraché la caténaire, ce qui a engendré des interruptions de trafic assez considérables. Le matériel est en phase de rodage, donc la régularité est plutôt défavorable. Après, la SNCF nous dit que ces problèmes-là vont se régler au fur et à mesure du rodage des trains.
Des caténaires arrachés sur les voies de service, sans impact sur le trafic, assure la compagnie ferroviaire qui a demandé aux conducteurs d'y rouler à 5 km/h au lieu de 30 pour éviter ces incidents. Mais les Régio 2N ont aussi des soucis en cas de choc. C'est arrivé deux fois en 8 mois et notamment jeudi dernier, rapporte Béranger Cernon, syndicaliste CGT.
Le conducteur a été dans l'impossibilité d'émettre le signal d'alerte radio et le signal d'alerte lumineux pour arrêter les circulations suite à un choc avec une personne. On est inquiet de voir des rames avec une qualité aussi déplorable parce que c'est des gros incidents qu'on a à répétition.
La CGT a déposé 5 droits d'alerte sur ces trains depuis janvier, mais la direction de la SNCF veut rassurer. Des défauts de jeunesse, explique l'entreprise qui a provisoirement équipé les conducteurs de radios portatives et de torches pour donner l'alerte en cas de nouveaux problèmes.
Un mot de sport et un entraînement pas tout à fait comme les autres pour les footballeuses du Paris Saint-Germain avec une grande dame puisque les joueuses avaient rendez-vous ce matin au pied de la Tour Eiffel pour y gravir ces quelques 1665 marches. Martin Bartoletti les a suivis enfin au début.
Pas d'appareil photo ni de guide entre les mains pour les parisiennes. Les footballeuses de la capitale ont chaussé baskets et survêtements. Elles ne sont pas venues à la Tour Eiffel faire du tourisme, raconte Eve Périsset, latérale au PSG.
On a monté deux fois la Tour Eiffel jusqu'au deuxième étage. Je crois que la meilleure a fait 10 minutes sur les deux montées, donc c'est plutôt pas mal. Et puis après, on a fini jusqu'au troisième en étant plus tranquille et on est très très fiers d'avoir pu faire cette expérience et surtout en équipe, ça restera un très bon souvenir.
Vous avez une idée du nombre de marches que vous avez gravies ?
Ouais, un peu plus de 2000 marches, je pense.
Une telle séance d'entraînement laisse forcément des traces.
Déjà, les mollets, ils souffrent beaucoup et c'est vrai que le cardio monte vite, mais les jambes ont pas mal souffert et notamment les mollets, donc va bien falloir s'étirer et bien récupérer pour les prochains entraînements.
La Tour Eiffel figure sur l'emblème du Paris Saint-Germain, ascension symbolique qui colle parfaitement aux objectifs des Rouges et Bleus cette saison, selon Eve Périsset.
Toujours aller plus haut, toujours faire le maximum en espérant que cette année on va réussir à ramener un titre à ce club.
Un titre de championne de France que n'a jamais décroché le Paris Saint-Germain. Les Lyonnaises gardent le trophée au chaud depuis maintenant 13 ans.
Encore du football ce soir avec le premier tour de la Coupe de la Ligue qui ne concerne en fait que les clubs de Ligue 2 et les 4 professionnels de National. 12 rencontres au programme. Tout au long de cette soirée, bof bof, vous nous annoncez encore de la pluie sur le nord demain, Elodie Calac.
Exactement, une perturbation qui arrivera par la Bretagne avec de bonnes pluies demain matin. L'après-midi, les pluies seront plus irrégulières, elles gagneront les Pays de la Loire, la Normandie. La pointe bretonne retrouvera un temps sec, quelques averses pour la région parisienne et les Hauts-de-France. Entre Poitou-Charentes, le centre, Champagne-Ardenne et la Lorraine, là, un ciel assez nuageux avec une rarondée, quelques éclaircies bien appréciables de temps en temps. Et puis partout ailleurs, là ce sera du soleil avec toujours du vent sur le sud-est jusqu'à 70 km à l'heure.
Un mot des températures ?
Un peu fraîche le matin, souvent 8 à 13 degrés, seulement 6 à Nevers, à Aurillac, mais quand même 21 degrés pour le sud-est. L'après-midi, quelques degrés de plus qu'aujourd'hui, 18 à 21 degrés près de la Manche, 22 à Angers, 24 degrés à Paris, à Mulhouse, 27 à Bourges, Lyon et Bordeaux, 28 à Toulouse et puis 31 degrés pour Nîmes et pour Toulon.
Merci Elodie Calac.